RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, c'est reparti pour une semaine de GG de Grande Gueule, une semaine de débat du lundi au vendredi, 9h midi, 3h de discussion, on vous attend au 32-16, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, l'avocat Charles Consigny, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, bonjour Kaouter.
Bonjour, et une fois n'est pas coutume, je salue les CRS et en particulier Mariano qui m'a arrêté hier, qui faisait partie des CRS blessés le 1er mai à Paris. Et qui est très très fan, lui et sa compagnie, des GG, donc on les salue tous.
Et pourquoi tu as été arrêté ?
Pour me saluer, parce qu'il m'a reconnu qu'il est fan, comme quoi, tu vois.
Tu t'es mis en garde à vue.
Non, mais jamais de la vie. Comme quoi, mon cher Bruno, il y a beaucoup de CRS et de policiers qui sont fans de moi, donc Bruno Pomard, si c'est un deuil.
Et puis, aujourd'hui dans les GG, parce qu'on l'avait remarqué au 32-16, on s'était dit qu'il faudrait le faire venir un jour dans les Grandes Gueules, nous sommes avec Christophe Demerson.
Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Avec son accent auvergnat que vous allez découvrir, Christophe, 65 ans. Alors pas seulement l'immobilier, j'ai vu ton parcours Christophe.
Ouais, c'est vrai.
Ancien dirigeant dans les cures thermales à la Bourbouille. Et puis ancien prof de français en prison. Tu as fait ça pendant des années, on en
parlait.
Ouais,
j'ai fait ça 35 ans, ouais. C'est un peu original, mais c'est vrai, ça me plaisait. Et puis c'est sympa, puis ça rend service à la société.
Bravo.
Président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. L'UNPI, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'on souffre en ce moment, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure.
Père et grand-père, c'est ça?
C'est ça.
À tout à l'heure, locataire-propriétaire, la grande galère. On en discutera ensemble au 32-16, au moment où le gouvernement dévoile son plan pour faciliter l'accès au logement des Français. On va voir si les mesures sont suffisantes. Mais notre premier sujet de discussion, c'est la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est demain, et pour les syndicats, la défaite n'est pas actée.
RMC, les grandes gueules.
Le niveau de la journée sera ce que nous en ferons. Donc j'appelle toutes les personnes qui regardent la télévision actuellement à se mobiliser le 6 juin prochain en nombre avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles, parce que c'est ça qui permettra d'être entendu le 8 juin à l'Assemblée nationale et c'est ça aussi qui permettra d'ouvrir des perspectives de progrès. J'appelle solennellement Yaël Braun-Pivet à laisser les députés voter pour que les parlementaires puissent enfin donner leur avis sur cette réforme et qu'en fonction du vote du 8 juin, le gouvernement Emmanuel Macron en tire toutes les conséquences.
C'est Madame Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT que vous venez d'entendre.
Ça sera la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 actions rassemblements sont prévues. Entre 400 et 600 000 manifestants attendus en France. C'est moins que les fois précédentes. D'ailleurs, les appels à faire grève sont très peu suivis. Le trafic SNCF sera très légèrement perturbé, nous dit-on. Quasi normal à l'RATP. Donc tant mieux pour ceux qui prennent les transports. Il y a quand même un risque, ce sont les militants ultra-gauche, parce que ça coïncide avec, alors je ne savais pas que ça existait, la journée nationale d'action de membres de l'ultra-gauche, notamment venus de l'étranger. Donc on s'attend à plusieurs milliers de personnages qui viennent souvent casser et s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc ça risque d'être chaud dans les rues de Paris, notamment demain, avec un tracé en plus qui ressemble au tracé précédent. Ils vont notamment passer devant la rotonde. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Bon, enfin bref, on verra ça demain. Mais on va reprendre ce que dit Sophie Binet. Elle dit la défaite n'est pas actée. Sur le papier, factuellement, c'est plié, puisque la réforme des retraites a été adoptée, a été validée par le Conseil constitutionnel. Les décrets d'application ont été pris. Elle doit s'appliquer au début de septembre. Donc c'est-à-dire que la retraite, maintenant, c'est 64 ans. Et on sait très bien que la proposition de loi qui sera votée jeudi, si elle est votée, c'est pas sûr, ça changera rien du tout. Donc est-ce qu'il n'est pas temps de dire, fin du match, les syndicats ont perdu? Il faut acter la défaite dès aujourd'hui.
La défaite est-elle actée? 32-16 pour en parler avec les GG. Kaouter?
Ben moi, je ne constate pas que les syndicats. Moi, je considère que
la défaite n'est pas actée.
Je considère que c'est le gouvernement qui a perdu depuis le départ. Parce que quand tu as peur d'aller au vote à l'Assemblée nationale, qui est l'instance où les lois doivent être votées, où tout doit être proposé et voté par les représentants du peuple, élus directement par le peuple, je considère que le gouvernement a perdu dès le départ, et de faire le forcing comme ça, de passer en force, de tout organiser pour qu'il n'y ait aucune motion de censure qui passe, pour qu'il n'y ait aucune proposition d'abrogation ou n'importe quoi qui passe et qui soit votée, c'est la défaite parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de majorité, ils savent qu'ils ne sont pas arrivés à faire une majorité avec la droite, avec les LR, ils savent qu'ils sont complètement perdus et qu'ils ne gagneront pas sur le terrain de la démocratie et du vote.
Mais,
et donc,
mais concernant cette réforme,
ils ne font que du forcing. D'accord. Et quand je fais du forcing, moi je considère que c'est un aveu de faiblesse que de continuer à s'entêter pour le gouvernement, de continuer à s'entêter et de chercher tous les stratagèmes possibles pour pas faire voter cette loi. Et il serait simple, très très simple, de la représenter, de la faire voter. Et là, si elle passe, les syndicats, moi-même et tous ceux qui sont mobilisés depuis maintenant 14 mobilisations.
Demain, tu iras défiler.
Bien sûr que j'irai, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour laisser tout le reste de la semaine, parce qu'il y aura peut-être demain, il y aura peut-être des actions derrière, je ne sais pas. On réagit.
15e journée.
Oui, ben, une 15e, une 16e, une 16e. Fais ce qu'il faudra, Olivier. Mais si tu veux, c'est un mépris absolu pour la population, parce que personne ne peut nier depuis janvier que les deux, que les trois, que 66% en moyenne, que 70% de la population est contre cette réforme. Qu'elle soit mobilisable ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, parce que c'est trop compliqué pour eux, avec l'inflation, etc., etc. Mais tous les sondages, y compris sur cette chaîne, le disent. Et ça persiste encore aujourd'hui. Et je trouve aberrant qu'un gouvernement et un président de la République continuent à faire le forcing avec l'opinion publique qui est contre lui.
Acté, la défaite.
Mais moi, je considère que c'est pas acté. C'est pour ça que je suis mobilisé.
Christophe, la défaite écoute, est actée
Je sais pas si elle est actée ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que quand ça dure trop longtemps, et ben, un petit peu tout le monde y perd. Et j'écoutais 15e journée. Moi, je viens d'Auvergne. Ben, c'est compliqué quand on vient d'Auvergne. L'économie, elle ralentit. Tout le monde galère. Bon, il faut prendre un petit peu la force des choses. Regardez ce qui se passe. Mais je pense que le débat démocratique, il doit avoir lieu. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est plutôt le ton. Je vois quand tout ce qui se passe, quand j'écoute les débats à l'Assemblée, tout ça, je trouve que le ton, il est quand même un petit peu violent. Et je sais pas si ça fait progresser le débat. Je sais pas si les Français peuvent bien s'approprier les choses.
Basta, c'est fini, faut arrêter.
Moi, je dis pas ça. Si là, la Constitution, elle est comme elle est, la Constitution, ben, sinon, on la révise. Hein. La Constitution, si elle permet, ben, on le regarde. Et puis après, sinon, on voit ce qui se passe.
Monsieur Consigny.
Et moi, je pense que, évidemment, institutionnellement, le match est terminé, réforme est passée.
Ça y est, c'est plié. La défaite est actée.
Sur le plan juridique, si tu veux, oui. Après, je constate que dans l'opinion, ça ne passe pas.
Pourquoi non, ça c'est. Tu rigoles encore. C'est les oreillettes. C'est les oreillettes.
Il y a des trucs sur moi.
Non, pas du tout. Non,
parce que tu es très beau.
C'est les bruitages. C'est les bruitages qu'on nous envoie dans les oreillettes. Vas-y.
Que nous n'avons pas. Il y a que Olivier avec les oreillettes.
Vas-y.
C'est bien, vous êtes mature en tout cas.
Oui, tu sais de l'autre côté, gens, ça. Ouais. Vas-y.
Je pense que juridiquement c'est fait, mais je pense que dans l'opinion.
Moi, pardon. Je suis très perméable au fouet.
Il n'y a pas plus con.
La régie, s'il vous plaît, la régie.
Je pense que dans l'opinion, ça va rester comme une espèce de marque sur le quinquennat Macron. Et en fait, je pense que ça empêche le deuxième quinquennat Macron de commencer. Je pense que le deuxième quinquennat Macron n'arrive pas à débuter à cause de cette réforme.
Ça démarre bien. Ça démarre bien. La défaite est-elle actée?
Ça a bien sorti.
Kauter dit.
Parce que Kauter dit
14, 15, 16, on pourra continuer de faire des journées de mobilisation.
Je pense que c'est anticipé dans la société. Oui, mais tu verras que ça va. Ils vont traîner ça comme un boulet pendant tout le quinquennat.
Comment tu peux continuer à appliquer une réforme quand tu as 70% de la population qui est contre ça? C'est quoi la démocratie? C'est quoi le débat? Ouais, mais il y a pas.
Ça a été raté.
C'est plus qu'un raté, là. Il est encore temps. Il y a plein de lois qui ont été abrogées, qui n'ont pas été appliquées. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas la première. Donc, pourquoi s'entêter? Et comme vient de le dire notre cher Charles, tu vois, pourquoi s'endetter et
c'est
te mettre à dos?
C'est ça qu'on n'a pas été dégradé par l'agence de notation vendredi.
Mais à un moment donné, il y a des prochaines élections et on est tous d'accord ici pour se le dire en off et pas en off. En tout cas, moi, j'ose le dire, c'est que là, ce que le gouvernement fait, ouvre les deux portes de l'Élysée au fascisme pour les prochaines élections, parce que les gens sont
on en est là,
tu sais, 4 ans ça passe très très vite et les élections pour les présidentielles elles vont commencer dans 2 ans, et donc en fait de pas écouter ton peuple comme ça, qui est mobilisé depuis 4 mois 5 mois maintenant, qu'ils soient mobilisés ou pas, encore une fois, qu'ils soient dans la rue ou pas, qu'ils soient retraités, qu'ils soient actifs, qu'ils soient privés d'emploi, dans toutes les rues de France, quand tu sais que quand tu sais, et c'est un homme de droite qui le dit, on peut pas gouverner contre son peuple, Kauter, en fait.
Kauter,
c'est la limite de la démocratie.
Écoute aussi les Français, regarde-moi par exemple. Oui. Moi, j'écoute, je pense qu'il faut quand même aussi être sage. Moi, je te disais, regarde, je viens de Clermont-Ferrand. Non, mais ouais, y a rien de cassé. Si tu veux, moi, quand je traverse Paris, je vois quand même il y a un peu de casse aussi. Quoi.
Paris, c'est pas la France.
Paris, c'est pas la France. Mais justement, moi, quand je viens d'Auvergne, si tu veux, je mets 4 heures pour venir en TER. Ouais. Bon, il y en a un qui marche, il marche pas. La grève, c'est le lundi. On te bloque à partir du dimanche et puis jusqu'au mercredi.
Je veux dire,
c'est pour ça quand tu dis, faut écouter ton peuple, d'accord. mais j'écoute, il faut écouter les opposants. Il y a des gens qui sont contre le président, ok, mais il faut aussi écouter un petit peu les autres, la majorité silencieuse et les gens qui galèrent
mais,
et qui vont travailler.
Mais non, je suis désolée, la majorité silencieuse, elle a qu'à s'exprimer parce que là, il y a 70% de la majorité.
La majorité silencieuse, elle est contre la réforme.
Elle est contre la réforme parce qu'elle
est pour le travail, elle est pour le travail, elle est contre la chirlie, elle est contre le bordel.
J'écoute ça, mais c'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis que après, si tu veux, 10 jours, 14 jours, 15 jours, j'écoute parler de 15 jours. Il y a un moment après aussi, il faut peut-être un petit peu s'assouplir.
On passe à autre chose.
Voilà, on peut peut-être.
Il faut dire au gouvernement. Alors dans ce cas-là, il faut pas s'adresser à ceux qui se battent pour le droit. Il faut s'adresser au gouvernement en leur disant regardez, la France est mobilisée depuis maintenant 15 journées. Depuis début janvier, il y a un front uni syndical qui est unique en fait et qui continue malgré le départ annoncé du patron de la CFDT, etc., malgré une nouvelle venue, la première femme à la tête de la CGT, Sophie Binet, que je salue. J'espère qu'il y aura encore des femmes à la tête des grands syndicats.
Il y a Marie-Lise Léon qui arrive.
Voilà,
à la tête
et donc
de la
bienvenue à elle aussi. Et donc quand on a un front,
un front syndical uni
comme ça depuis janvier. Qui reste comme ça à faire bloc. Quand on a 70% de la population qui est unie, c'est à la majorité silencieuse dont tu fais partie, dont tu t'es définie pour la majorité silencieuse, s'il te plaît, qui a qu'à interpeller elle aussi. Et en plus, tu as une fonction qui peut interpeller le président. Tu es président des propriétaires au niveau national, au niveau de l'immobilier. Tu peux interpeller le président en disant nous ne pouvons plus. Et moi, j'invite tous les patrons. J'ai dit au président des syndicats, j'ai dit notamment à Pascal Galeotti, d'interpeller tous les, y compris les CCI. Quand tous les patrons doivent aussi interpeller le président en disant nous n'en pouvons plus, écoutez, 70% de la population est contre vous.
Les patrons, ils veulent cette réforme des retraites.
Comment
ils veulent cette réforme des retraites.
Le patron, ils veulent la réforme des retraites. Je suis désolée. Je ne peux pas avoir le beurre, la crème fraîche et puis la crémière.
Si tu parles tout ça, ça va être compliqué. Mais Cauter, tu dis 70%. Pardon, mais moi, je note, c'est les sondages. Je note que la mobilisation n'a jamais bougé. Ce sont toujours été les mêmes dans la rue, c'est-à-dire plutôt les fonctionnaires, plutôt les entreprises public. Il y a eu très peu de salariés du privé en grève.
Pourquoi ?
Ils n'ont pas réussi, finalement, lorsqu'ils ont lancé des journées d'action, de grève générale, etc. Ça n'a jamais pris depuis le début. Les seules choses qui ont marché, ce sont les manifestations qui sont moins engageantes, parce que pour aller manifester, tu n'as pas forcément besoin de déposer une journée.
Pourquoi ?
En tout cas, je termine. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu quand même un échec du côté des syndicats à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce sont à peu près toujours les mêmes qui ont été mobilisés. Oui. Et même les taux de grévistes à la SNCF ont été assez bas par rapport à d'autres mouvements des cheminots, même à la RATP. Donc on voit bien quand même que, certes, il y avait un rejet parce que les Français n'ont pas envie de travailler 2 ans plus, mais je pense que ce n'est pas la préoccupation numéro 1 des Français. Je pense que la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est les salaires, et je pense qu'il y a un entêtement des syndicats qui sont un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que Sophie Binet, elle devrait plutôt mobiliser sur les salaires, elle devrait plutôt mobiliser sur la vie chère, elle devrait aussi s'interroger sur la dette de la France, parce que ça aura des conséquences notamment pour les plus pauvres. C'est, à mon avis, c'est les vrais sujets sont là.
Cher Olivier, je te propose de devenir
c'est un petit
sujet porte-parole du gouvernement. Non, c'est pas un petit sujet et ça va ensemble. Si les gens, et si le privé notamment n'a pas été mobilisé, c'est par rapport à l'inflation. Parce que tout est cher, à commencer par l'immobilier.
Parce qu'ils pensaient qu'il fallait
pas s'obliger
pour ça.
Parce que les gens qui gagnent 1 000 euros, 1 300 euros, ils n'ont pas les moyens de faire 1 jour, 2 jours, 3 jours de grève quand ils sont pas syndiqués, que les syndicats, qu'il n'y a pas de caisse de grève de syndicats, etc., etc. Et que justement, depuis le départ, on l'a dénoncé. Si j'ai fait partie des personnes qui l'ont dénoncé, et toi-même, tu l'avais soutenu sur le cynisme du gouvernement qui parie justement sur l'essoufflement de la mobilisation et sur le manque de
Tu dis qu'il y a un manque de mobilisation, tu vois, c'est pour ça.
Les gens
ils veulent aller travailler aussi, si tu veux, 14 jours, 15 jours. Voilà, on a écouté, on a compris. Okay.
Des gens du privé,
majoritairement, les gens ils veulent bosser.
Les gens ils veulent bosser, mais les gens ils veulent être rémunérés correctement pour leur travail. C'est ça, voilà. Et les gens ils ont pas vu de mourir au travail.
Avant de penser à la retraite, ils pensent
à
la vie de tous les jours.
Oui, mais ils font les deux.
Alors attendez, parce qu'on va aller dans la Manche. Benoît qui nous attend au 32-16. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour, comment ça va?
Bonjour Benoît.
Chauffeur poids lourd, mon cher Benoît. Donc, est-ce que la défaite est actée? Alors, la défaite des syndicats face à la réforme des retraites?
Oui, mais que jusqu'à la fin du quinquennat. Que le prochain quinquennat devra refaire notre réforme de retraite parce que celle-là, elle est trop faible et insuffisante et elle ne servira à rien de toute façon.
Ah non, vous en avez une plus forte, plus dure.
Oui, pro Charles.
Oui. Non, ouais, pour moi, faut vite lancer la transition vers la retraite par capitalisation.
Ah oui, d'accord.
Et ça fait déjà des années et des décennies qu'on
n'aura pas le choix
de faire, en fait. Vu la démographie, vu le nombre de retraités par rapport au nombre de salariés. Ouais. Après, Cauter, elle se plaint du niveau des salaires, mais quand mon père a commencé à travailler, il y avait 10 actifs pour un retraité. Là, on est à 1,7 à peu près. Donc forcément, on est obligé de nous prendre plus d'argent aux travailleurs pour payer les retraités, vu qu'on est moins à payer pour les retraités.
Benoît,
le problème,
depuis
Mitterrand...
CQFD.
Dès qu'on serait arrivé à 5, directement, on aurait dû dire là, stop, faut vite changer le programme parce qu'il y a un truc qui marche plus.
Ou changer de programme, ou peut-être empêcher les grosses boîtes d'aller se délocaliser en Chine ou dans les pays de l'Est,
Empêcher, mais voilà,
c'est que l'inflation depuis Mitterrand, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation depuis 30 ans, enfin, depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, à un moment donné, quand la baguette,
oui, elle a été les salaires sont bas aussi, pas seulement à cause de la décision des patrons. Moi, je pense qu'il y a une part, en effet, qui est due à la décision de patrons qui ne veulent pas augmenter les salaires, qui veulent payer les gens pas cher pour réduire leurs coûts. Mais il y a aussi le poids des charges sur les salaires. Et les charges payent quoi ? Les retraites, notamment.
Pas que.
Donc, pas que, mais beaucoup quand même. Ça coûte cher, les retraites. Ces cotisations élevées, si tu ne réformes pas, tu es bien obligé à un moment donné de trouver de l'argent quelque part. Donc, soit tu maintiens des cotisations élevées, soit même tu les augmentes.
Des salariés et
donc, ton
des
système,
cotisations
ton
aussi,
système
Charles.
Se mord la queue. Oui, ah. mais d'accord. Mais
coup, ça ne serait que les patrons qui paient.
Mais non, mais les salariés payent des cotisations et ça pèse aussi sur leur rémunération.
Oui.
On voit bien en France le délire qu'il y a dans la différence entre le brut et le net. Tout le monde le connaît. Ça vaut aussi pour les indépendants qui payent des charges considérables par rapport à ce qu'ils facturent, de l'ordre de 40% dans ces eaux-là. Donc il faut bien à un moment donné essayer de desserrer cet étau-là. Ça me paraît indispensable. Sinon, on reste dans une espèce de régime soviétique où, en fait, on travaille la moitié de l'année, si ce n'est plus, pour l'État.
On est bien loin d'un régime soviétique, et tu le dis toi-même. Le problème n'est pas tant notre taux d'imposition. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait?
Benoît, que pensez-vous de cette 14e journée de mobilisation demain, alors, quand même, Benoît?
Bon, rien. De toute façon, c'est comme d'habitude. Dès que le gouvernement essaie de faire le moindre petit truc, ça couine dans tous les sens, quoi.
Qu'est-ce qu'il fait, Benoît, dans la vie?
Donc, on a l'habitude.
Non, mais Benoît, il est chauffeur routier, mais lui, c'est un petit peu le bon sens. Je pense que Benoît, il dit un petit peu ce que disent les Français moyens d'une manière générale. OK, on a compris. Il y a beaucoup de gens qui voudraient prendre la retraite, essouffler, passer à autre chose. Mais au global, et ben après, ouais, il y a le principe de réalité. Ça s'appelle le principe de réalité. Ça veut dire que il faut bosser, il faut se lever le matin, et puis il faut aller un petit peu marner un peu plus. Bon, je comprends que c'est pas, ça fait plaisir à personne. Mais le matin, il monte dans son camion, il rigole pas, mais il est emmerdé tout de suite, et ça dure. Alors à quoi ça sert? Je pense plutôt qu'il faudrait aller maintenant vers un débat apaisé, une phase 2, peut-être que ce principe après de rentrer autre chose, différemment, c'est ce qu'il disait, pour mettre un autre système en place. Mais ça, c'est de la discussion.
Merci Benoît d'avoir été avec nous.
Je peux poser une question à Kauter?
Oui, bien sûr, allez-y Benoît.
Oui, Kauter, est-ce que tout ce que vous achetez c'est made in France?
Moi je suis pas une grande consommatrice, mais je crois pas, non.
Non, pourquoi vous achetez des produits qui viennent soit de Chine, soit d'autres pays?
Parce que j'ai pas les moyens d'acheter du made in France.
On n'a pas le choix surtout.
Voilà. Excusez-moi. Et parce que comme l'a dit Olivier, quand je vais à Carrefour ou à Lidl ou à Monop, j'achète ce qu'il y a dans les rayons en fait. Mais j'ai pas de véhicule, j'habite dans le centre-ville.
Non, on peut pas vivre en achetant uniquement du made in France.
Voilà, il y a pas une chose qui a plus. Moi, je peux pas me permettre de.
Un bon Alcatel.
Oui, un Alcatel, ouais, si tu veux. Enfin, voilà.
Benoît, pourquoi cette question?
Attendez,
pourquoi cette question?
Parce que je la comprends pas, en fait.
C'est simple, en fait. Vous achetez des produits à l'étranger parce que c'est moins cher. Et vous vous plaignez que les boîtes fassent la même chose. Donc, vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez dit que j'ai pas les moyens, monsieur.
D'abord, moi, j'ai pas les moyens. Je l'ai jamais caché. Moi, je suis pas quelqu'un de riche. J'ai été malade pendant 12 ans et j'ai atterri. J'ai eu d'abord mes indemnités chômage comme tout le monde. Et après, j'ai atterri dans ce qu'on appelle le RSA santé. J'ai beaucoup souffert parce que je suis passée d'un salaire très correct et je suis propriétaire accédante. Donc, je paye un crédit, je paye des charges. Et quand on est alité avec une pompe à morphine et qu'on travaille plus, c'est compliqué. Donc, en fait, il y avait des fois où j'achetais même plus, en fait. Comme ça, moi, c'est réglé et je cherchais à avoir un peu d'aide à droite, à gauche, dans les Restos du Cœur et compagnie. Et j'y avais même pas accès parce qu'il y avait trop de demandes.
Tu vas avoir une bonne nouvelle pour tes impôts français puisque tu habites Marseille, Kauter. Tu sais que à l'UNPI, il y a des propriétaires qui se sont mobilisés. Et ils ont attaqué la délibération de la mairie,
oui,
voilà.
Sais.
Et tu sais que donc il va y avoir un petit remboursement.
Oui, normalement.
La décision de justice, elle est là.
Oui, non, mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens. Que le maire a dit qu'il n'avait pas les moyens.
Tu vas récupérer 50 millions d'euros là. Tu vois, ça va être distribué aux Marseillais.
On va nous inviter à venir.
Voilà. Ben oui, tu demanderas à Maître Gauvert.
Merci d'avoir été dans les GG.
Je t'invite un week-end.
Allez, dans un instant, suite de la discussion. Est-ce que la défaite est actée? Défaite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Bonne route, Benoît. On continue d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG, en direct sur RMC, RMC Story. RMC, c'est la radio, RMC Story, c'est la télé sur Canal 23 de la TNT. Avant de continuer notre discussion là sur la réforme des retraites, 14e journée de mobilisation demain. Est-ce que la défaite est actée pour les anti-réformes? C'est au 32-16 que ça se passe. On va accueillir Nicolas du côté de la Charente-Maritime. Mais je voulais saluer et remercier Nathalie qui, avec sa famille, avait gagné un séjour Bellambra. Avec les GG, elle est partie dans le club La Palmyre.
Ah, sympa.
Voilà, et elle nous dit merci, un grand merci aux GG pour ce beau séjour Bellambra, signé Nathalie et sa famille. Donc voilà,
bravo,
séjour
merci.
Bellambra. C'était sympa, vous en avez bien profité de vos vacances, tant mieux. On revient à la réforme des retraites, la contestation, 14e journée de mobilisation demain. Nicolas, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, est-ce que la défaite est actée pour les opposants, dites-nous?
Pour les opposants, je sais pas. Pour le gouvernement, je dirais que oui. Alors, je pense que la réforme, de toute façon, il va la passer. Il a décidé.
Elle est passée.
Donc voilà. Par contre, de quelle manière? Il a utilisé toutes les armes constitutionnelles pour la passer en force. Pas de consultation de l'Assemblée. Menace des députés Renaissance si toutefois ils s'abstenaient de les exclure des groupes, etc. Une répression des manifestations sans commune mesure, ça c'est quand même moche, quoi. De quelle façon c'est passé? Et ce qu'a dit Kauter tout à l'heure, je suis d'accord avec elle, là il est en train de faire un pont d'or à l'extrême droite. Et rendez-vous pour les prochaines élections.
2027,
je pense sincèrement que là, c'était celui qui devait faire disparaître l'extrême droite. Je pense que là, il leur fait un pont d'or.
Oui, mais alors expliquez-moi, c'est bizarre parce que c'est plutôt la gauche qui s'est mobilisée contre cette réforme des retraites. C'est la gauche qui était dans la rue. Ce sont les partis de gauche qui ont soutenu les syndicats. Alors, ça devrait au contraire profiter à la gauche. Si les gens l'ont mauvaise, ils devraient se dire, dans 4 ans, on va prendre notre revanche et on va faire passer la gauche, qui promet d'ailleurs, Mélenchon et les autres, de revenir à 62 ans, voire 60 ans. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire tout le monde parce que, on verra si jamais la gauche arrive au pouvoir,
ils le feront pas.
Ils l'ont jamais fait. C'est-à-dire que Hollande ne l'a pas fait, mais peut-être que cette fois-ci le feront. Et Nicolas, tu nous dis, c'est l'extrême droite qui va gagner. C'est ça qui est bizarre.
Non, c'est pas bizarre. Tu fais une analyse partielle, moi.
La gauche, on a essayé. La droite, on a essayé.
Voilà.
Qu'est-ce qui reste? Et les gens, ils réfléchissent comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné.
Donc ça veut dire que la gauche qui est dans la rue ne convainc pas d'un retour au pouvoir.
Et les sondages vous le disent. Les sondages vous le disent.
Ça devrait faire réfléchir la gauche.
Le grand gagnant de tout ça, c'est l'extrême droite. Parce que, de toute façon, regardez ce qui se passe autour de nous dans les pays européens. Il y a une poussée de l'extrême droite.
C'est vrai.
Et là, tout ce qui leur donne.
Nicolas.
La gauche, Madame Binel devrait réfléchir.
Mais alors, c'est même pas un argument pour ceux qui mobilisent demain, parce qu'on annonce de la casse encore. La casse, à qui elle profite?
À Paris, vous annoncez ça. Dans les autres villes.
Il y en a à Nantes, il y en a à Rennes, il y en a à Lyon.
Il y en a eu à Montpellier, il y en a eu à Toulouse,
il y en a pas à Lille.
La France ne se résume pas à Marseille.
Mais la France ne se résume pas à Paris non plus.
Non, mais il y a eu à Nantes, à Rennes, à Lyon. Va à Lyon, va voir
toutes les commerçants
lyonnais.
Il y a 250 mobilisations qui sont annoncées. Il y en a eu beaucoup plus qui ont été annoncées. Ça a cassé à Paris et Nantes. Excuse-moi, à Paris et Nantes, ce n'est pas la France.
Alors, c'est encore plus
La majorité des manifestations, c'est important de le dire, se sont super bien passés.
Et c'est malgré tout l'extrême droite qui progresse. Donc même là où ça se passe bien, derrière, finalement, c'est toujours les mêmes qui tirent les marrons du feu. Donc ça veut bien dire quelque
chose. Pourquoi tu dis que c'est l'extrême droite qui progresse
parce
où,
que tu,
à Marseille
parce que On te dit qu'il y a de la casse et que la casse, ça profite aussi aux partis de l'ordre. Et tu me dis, il n'y a pas que la casse, il y a aussi là où ça se passe bien. Et même là où ça se passe bien derrière, électoralement, on voit bien que dans ces journées de manifestation, le parti qui progresse aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Mais si tu lui dis que majoritairement ça se passe bien,
ça profite
aussi à l'extrême droite.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si ça se passe bien, si ça profite à Marine Le Pen, comme l'a dit Nicolas, c'est parce que on a eu effectivement des décennies de gauche, des décennies de droite, et que Macron est sorti de la cuisse de Jupiter et il se prend maintenant pour Jupiter, justement parce que les gens en avaient marre de ce combat binomique entre la gauche et la droite qui donnait rien et où le pays s'enfonçait. Même si on est un pays hyper taxé, même si on est un pays hyper solidaire au niveau des impôts, tout est en déliquescence. Nos hôpitaux, nos écoles, les services judiciaires.
Pourquoi la gauche en profite pas là?
Parce que la gauche est morte, grâce notamment ou à cause notamment des mecs comme Mélenchon, tu vois, qui sont que des opportunistes politiques et qui sont des mecs qui n'ont pas travaillé pour le peuple, tout simplement.
Macron, c'est quand même a tout fait pour faire exploser et la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que l'extrême gauche avec les propositions de M. Mélenchon qui sont ce qu'elles sont. Mais Il a tout fait. Les partis historiques ont explosé. Il ne reste que lui, donc Macron, l'extrême gauche, l'extrême droite. L'extrême gauche, clairement, les gens, je pense qu'ils n'en veulent pas. Notamment quand on entend les discours de M. Mélenchon, qui, voilà, qui sont pas. Mais et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, l'extrême droite. Et je vous, enfin, moi, il me fait, là, ce qu'il est en train de faire là, il me fait peur. Il me fait peur pour 2027.
Nicolas, il y a un truc où je suis pas d'accord avec vous, c'est quand 2024, vous dites que Macron a tout fait 2027. Pour. En fait, Macron n'a pas eu besoin. Macron est venu et, si vous voulez, il est né des cendres de la mort du PS et de l'UMP-LR. C'est de ça. En fait, si on avait deux partis forts à droite et à gauche, jamais Macron n'aurait émergé. Et en fait, ils se sont tués seuls avec des décennies de co-gouvernance qui a été complètement efficace. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est lui qui a été cherché dans les partis et qui, entre guillemets, qui les a fait exploser.
Oui, mais après coup.
C'est intéressant quand même de voir que la gauche ne profite pas de cette contestation. Moi, je pense
parce qu'elle
que
s'est pas
je pense que sur le plan des idées d'abord, elle est très décalée par rapport à la majorité de la population française. C'est-à-dire que quand vous discutez, quand même vous entendez des interviews de Sandrine Rousseau, de Yannick Jadot, de Mélenchon, j'en parle même pas, vous voyez quand même des gens qui sont sur des positions en réalité assez minoritaires, qui sont sur des délires idéologiques, qui sont sur des positions un peu dans l'air du temps, mais qui sont pas dans le cœur des gens. Et je trouve que ils sont en train de louper une occasion importante qu'ils auraient de se connecter au peuple et d'essayer d'être majoritaire, parce que ils sont noyautés par des Sandrine Rousseau et autres qui pourrissent, à mon avis, leur message.
Mais il y a aussi des François Ruffin qui sont
connectés. Je suis quand même un peu d'accord aussi, parce que si on écoute bien, regarde, quand on parle, écoutez ton peuple, d'accord, ok. T'as écouté tout à l'heure le chauffeur routier, qu'est-ce qu'il disait ? Hein ? C'est lui qui l'a proposé. Pourquoi on ne mettrait pas un petit peu de capitalisation ? Je ne sais pas si c'est la solution. Il l'a proposé. Mais il y a des gens qui proposent des solutions, y compris des Français qui travaillent tous les jours. Pourquoi on n'en discute pas ? On peut en discuter. C'est peut-être pas la peine de foutre le bordel et de se battre toute la journée.
C'est un sujet tabou. Notamment à gauche, c'est un sujet tabou.
Non, mais attends, excusez-moi.
Alors,
Madame Borne a reçu les syndicats pour leur dire je vous écoute parler de tout, sauf de ce qui nous mobilise et ce qui vous mobilise.
Ils ont proposé la capitalisation.
Non, mais peu importe, ils avaient des propositions. Alors, c'est pas parce que c'est pas.
La retraite à 60 ans.
C'est pas parce qu'ils proposent pas ce que vous voulez entendre qu'il faut pas les écouter.
La retraite à 60 ans.
Non, on veut rien entendre. On veut rien entendre.
Kauter,
écoute-moi. Fais-moi plaisir. On demande rien. Je te parle du chauffeur routier qui parlait. C'est lui qui l'a proposé. C'est pas nous. C'est personne autour du tableau, du plateau. C'est pas Charles. Personne. C'est le chauffeur routier dans son camion. Il prend le téléphone, il t'appelle et il dit bah tiens, pourquoi on parlait pas de la capitalisation ? Peut-être que c'est ça la solution.
Mais
c'est lui qu'on a eu. J'y peux rien, c'est pas moi qui.
Je remercie Nicolas d'avoir été avec nous. On va écouter Rudy. Enfin, Nicolas nous dit lui, le gouvernement a joué avec le feu. Il faudra pas se plaindre d'avoir l'extrême droite au pouvoir ensuite. Rudy de l'Aude, bonjour Rudy.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe.
Alors Rudy, est-ce que la défaite est actée, oui ou non ?
Non.
Expliquez-nous.
Elle n'est pas actée. Je suis un peu partagé sur le débat parce que je m'intéresse depuis très longtemps à la politique via mon père surtout, ouais. Qui est un passionné de politique. Je suis conseiller municipal moi de mon petit village qui fait 335 habitants. Donc vous voyez, c'est très très petit. On fait pas de politique réellement. On est sans étiquette. D'ailleurs, je salue tout le monde chez moi à Comignes. Je suis un peu d'accord avec Kauter, mais pareil, je suis partagé, parce que Kauter, elle dit quelque chose de très juste quand elle dit que les gens n'ont pas pu aller manifester pour la plupart au moment où il fallait aller manifester. Il aurait fallu plus de monde dans la rue, mais malheureusement, ben, pour la plupart, et j'en fais partie, soit on est coincé au travail parce qu'on n'a pas le choix et on ne peut pas poser une journée, soit on est coincé parce qu'on sait que la journée va nous coûter très cher, soit les deux. Donc c'est très compliqué, et ça je pense que le gouvernement le sait, et les divers gouvernements qui ont gouverné depuis les 40 ou 50 dernières années, ils ont tous fait pareil, ils divisent pour mieux régner, voilà, comme ça eux ils sont tranquilles, hein. Et en fait les gens ben, s'opposent, mais on ne peut pas aller dire, ils nous parlent de démocratie, aujourd'hui ils osent encore nous dire, oui on a tout fait pour la démocratie, on est démocratique, non, vous n'êtes pas démocratique, sinon vous auriez osé proposer le vote. Vous n'avez même pas proposé le vote. Même pas ça. Donc, c'est que, quelque part, vous refusez le débat, vous n'allez pas au vote parce que vous avez peur de la réponse. Ce qui me fait penser à un Sarkozy, je crois que c'était en 2007, quand il nous demande si on est pour ou contre l'Europe, et on lui dit non, on est contre l'Europe, et il dit, ben, vous avez dit non, ce sera oui quand même.
Alors, c'était pas Sarkozy qui avait proposé le référendum, c'était Jacques Chirac, c'était en 2005. D'accord, et ensuite, quand Nicolas Sarkozy, effectivement, se présente en 2007, il dit, je reprends une partie de ce qui avait été rejeté dans un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne.
Voilà. Rudy, du coup, vous, demain, vous irez manifester, vous serez mobilisé, au moins, si vous ne le faites pas physiquement, vous serez solidaire, dites-moi.
Alors, je serai solidaire, moi, je suis solidaire du combat, ça, c'est sûr. Par contre, je ne pourrai pas aller manifester puisque moi, je travaille et je ne peux pas, par rapport à mon employeur, me permettre d'aller manifester. En plus de ça, même si je pouvais le faire, et que ça devait me coûter une journée de congé, à la limite, je pourrais la poser, je le ferai.
Mais ça changerait quoi d'aller... Cette nouvelle manifestation, elle change quoi, finalement? Elle peut faire changer quoi, en fait?
Je sais pas. Je me dis que peut-être qu'il peut avoir un éclair de... Je sais pas, une lumière qui s'allume, monsieur Macron, et qui se
dit... Vous avez vu que les décrets d'application de la réforme ont été pris ce week-end. C'est-à-dire que, ça y est, la retraite, c'est désormais 64 ans.
On voit que la majorité silencieuse n'est pas celle qu'on croit.
Voilà,
ce qu'on appelle d'habitude la majorité silencieuse et qui est en désaccord avec les manifestants. Normalement, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, ce sont les gens qui sont en désaccord avec les manifestants et en accord avec le gouvernement. Et sur ce sujet-là, ça s'est inversé. La majorité silencieuse, c'est aussi la France qui ne manifeste pas et qui est en fait solidaire, qui porte les mêmes idées, les mêmes revendications que la France qui manifeste.
Voilà. Merci à Rudy d'avoir été
assez nouveau, je trouve.
Oui, mais c'est aussi, mais avec un principe de réalité qui dit bon, ok, on s'est acté la réforme des retraites, on passe à autre chose et rendez-vous aux prochaines élections. C'est un peu ça aussi ce que dit cette majorité
silencieuse. Mais ils ont envie de continuer à emmerder le gouvernement, si je puis me permettre. Ils ont envie de continuer à ce qu'il y ait une épine dans le pied parce que ça ne passe pas.
Merci Rudy, vous avez conclu la discussion. Alors on va regarder pour vous, retraite, la réforme, la défaite est-elle actée? On va voir si on est sur les deux tiers, un tiers. Allez, on envoie le sondage. Alors, la défaite est actée. Alors il y a de la résignation, 55%. Oui, mais non, 44,8, quand même 55-45. Voilà, ça vient de bouger à l'instant. 55-45, oui, la défaite est actée. Dans un instant, on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sainz. Les Yvelines, des tirs de mortier dans le lycée pour fêter la fête de fin d'année. Roland Garros, les critères de recrutement pour les hôtesses, épilation, maquillage et un certain physique. On s'en fout ou on s'en fout pas? Tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les grandes gueules, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, Christophe Demerson, qui est le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, et l'avocat Charles Consigny de l'immobilier. Il en sera question tout à l'heure à 10h. Locataire, propriétaire, est-ce qu'aujourd'hui c'est effectivement la grande galère pour trouver un logement, pour obtenir un prêt? Alors le gouvernement dévoile un certain nombre de mesures, on les a déjà, mais venez en discuter tout à l'heure avec nous à partir de 10h. Il est 10h moins le quart, oulala, que le temps passe vite. Hier j'étais encore enfant. On y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Roland Garros et son guide de l'hôtesse parfaite qui fait scandale. Des hôtes et hôtesses recrutés sur le physique. Les garçons doivent tailler correctement la barbe ou être rasés à blanc. Consigne plus contraignante encore pour les hôtesses qui stipulent d'appliquer un maquillage léger, résistant aux intempéries, d'être épilé de près aussi, épilé des jambes, des aisselles et même proscrire les mèches rebelles. Est-ce qu'on s'en fout pas, Charles?
Alors, on s'en fout pas.
Kaouter,
s'en fout pas.
Christophe,
on s'en fout pas.
J'étais étonné de voir que ça pouvait faire une polémique. Le wokisme n'a plus de limites. Et donc maintenant, c'est consigne complètement anodine pour un événement auquel on demande simplement aux gens qui accueillent les spectateurs et les invités de présenter correctement. Ça devient un outrage aux femmes à barbe qui auraient le droit après tout d'être elles aussi hôtesses. Je trouve qu'il y a des limites quand même dans le délire et qu'on a le droit aussi de vouloir simplement quelques tenues élémentaires.
Christophe.
Moi, je partage tout à fait. Moi, je pense que c'est ça aussi, encore, on revient sur le bon sens. Moi, ça ne me choque pas qu'un hôte, on peut parler des hôtes aussi, hein, soit correctement rasé, ou s'il a une barbe, qu'elle soit à peu près taillée, ou qu'il ait des baskets propres pour se promener dans les allées et accueillir les participants. Hein. Mmh.
Là où t'as les femmes, ça veut dire que si tu as 5 kilos en plus, tu peux pas être hôtesse, en fait, c'est ça?
Oh non, il n'y a pas du tout de consigne.
Le poids n'est pas un critère.
En même temps, hier, pour m'être baladé un peu dans les allées.
Ah, tu étais à Roland-Garros?
Tu vois, oui.
Voilà. À mon avis, il faut être des mannequins, quoi.
Des nantis privilégiés.
Non, mais
tu vois
ça.
Pas beaucoup de personnes en surpoids. On est
voilà, d'accord. Tu vois, c'est, moi, ce qui me gêne, c'est si tu veux, ok, bien sûr, il faut être propre, tout ça, etc. Il n'y a aucun souci quand tu travailles, mais pas qu'à Roland-Garros. Même ici, les agents d'accueil, ils ne sont pas en mode, voilà, clochard ou pyjama. Mais moi, ce qui me choque, en fait, ce qui m'énerve, en fait, pas qui me choque, c'est toujours ces injonctions à être, à faire du 90, 60, 90 pour un mec 1m80.
Ils n'en parlent pas, là.
Oui, non, mais là, c'est pas.
Oui, mais je suis sûre que tu vois quand même que ça dans les. Tu vois, tu l'as avoué, oui, toi aussi.
Bah là, tu fais apprécier l'intention parce que non, c'est pas les critères. Là, on est plus sur les poils, si j'ai bien compris.
Bah, sur les poils et sur le fait d'arriver effectivement soigné.
Mais c'est normal.
Oui, mais ça, c'est normal.
Dans n'importe quel boulot.
Quand t'es dans un métier de représentation, quand t'es face à une clientèle, c'est normal. C'est l'inverse qui serait choquant. Si on avait un type négligé alors qu'il est censé accueillir du public, on dirait, mais finalement, il fait pas attention à la personne qui l'accueille, c'est une espèce de et respect du client. Mais en France, on a du mal parce qu'on n'a pas la culture du client. On n'est pas un pays anglo-saxon, tu vois.
Mais non, arrête de dire ça.
On a du mal.
Quand tu vas à Carrefour, quand tu rentres ici, quand tu rentres dans n'importe quelle boîte, les gens ils sont bien présentés. Moi, ça me choque que tu dois.
Les gens ont l'impression que le service, c'est d'esclavage.
Travailler.
Esclavage.
Propre, habillé.
Enchaîne.
Les GG, qui célébrait, tiens là, la fin des cours au lycée. Je crois que c'est un petit peu générationnel. Vous faites, Charles, peut-être, tu célébrais pas la fin des cours, le dernier jour au lycée?
Non.
Non. Moi qui faisais ça, c'est Lionel.
Moi, j'y étais pas. Hein, je partais avant la fin. Ouais.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, c'est bah écoutez,
j'étais très mauvais élève, moi. Oui.
Ah oui.
Je me tirais avant la fin. Ouais. Voilà.
Mais les GG, dans les Yvelines, dans les Yvelines, au lycée, dans un lycée du Vésinet, des élèves avaient prévu jeudi dernier mortier, feu d'artifice, même fumigène, pour célébrer le dernier jour de l'année scolaire.
Ils ont tiré en l'air un coup de Kalachnikov.
Alors ils ont pris d'assaut ces élèves. Ils ont pris d'assaut leur établissement. Les images sont impressionnantes. Hein. Scène de chaos filmée et postée, évidemment, hein, sur les réseaux sociaux.
Dingos, hein.
La police
en tôle
est intervenue pour déloger les lycéens. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
Qu'est-ce qu'ils ont eu, les lycéens, ils ont eu quoi ?
Aucune idée.
Charles, on s'en fout pas.
Ouais, je m'en fous pas non plus, mais je vois, il y a 2 ou 3 fumigènes. Ouais.
Non, on s'en fout pas du tout.
Alors, Kauter.
On s'en fout pas du tout. Et moi, je suis persuadée, je les excuse pas, au contraire, je les condamne fermement, mais tu vois, tous ces jeux vidéo de merde où ils sont coachés. Enfin, moi, je me demande quel est le modèle de ces jeunes pour que fêter la fin de l'école ou fêter n'importe quoi, ce soit tout saccagé dans ton collège ou dans ton lycée, en fait. C'est pas rigolo. Tu peux blesser quelqu'un. En fait, je trouve que c'est des jeux qui sont complètement inconscients et que ces collégiens devraient être d'abord condamnés à faire des travaux d'intérêt général.
Général.
Et notamment nettoyer leur établissement.
N'a pas porté plainte.
Ah bon?
Encore pire.
Non, mais parce qu'apparemment, il n'y a pas de casque, Kauter. Regarde, je regardais les images en même temps.
Donc pour toi, c'est bon enfant, Christophe?
Non, c'est pas que c'est bon enfant. C'est que, ouais, c'est une connerie. Mais qui sait qu'on n'a pas fait, je veux dire, quand on est jeune.
Oui, enfin, bon,
là, il y a des fumigènes. Il y a des fumigènes. Non, mais je pense que l'établissement n'a pas porté plainte parce qu'il n'y a pas de dégâts. Regarde les images.
Ils ont saccagé des bureaux, des salles.
Ah ben là, on ne les voit pas à l'image. C'est pour ça que je disais,
ils ont tiré les fumigènes dans les
coins, ils ont tiré 2 fumigènes.
Nous, okay. Quand on est, enfin moi,
ça
dans
fait
mon lycée,
Christophe.
Le dernier jour des, le dernier jour des cours dans mon lycée, enfin c'était un peu la tradition à Lyon. Je pensais que c'était tout le monde, c'était on se jetait des œufs et
des
de la quenelles. Farine. Non, oui.
Évidemment, vous pensez qu'à
bouffer
à Lyon.
Non, mais vous faisiez pas ça.
Les Lyonnais font que manger.
On se jetait de la farine et des œufs. Alors c'était
quel gâchis. Au lieu de faire des crêpes.
Enfin bon, c'est moins dangereux peut-être que.
Ouais, effectivement. En fait, moi je trouve voilà, que tu passes par là, tu.
Non, ça dit quelque chose du respect de l'établissement en fait. Ça dit quelque chose aussi du respect de l'établissement.
De la manière qu'ont les jeunes aujourd'hui de s'amuser, parce que pour eux c'est. Moi j'ai vu ça aux infos, ils rigolaient quand ils filmaient derrière et tout.
Mais tu as raison.
Et moi je suis inquiète sur le fait que.
Aux vidéos et aux lives.
C'est les vidéos, c'est ce qu'ils regardent, c'est leurs jeux vidéo.
C'est pour être sur les réseaux sociaux surtout. On fait des vidéos et
oui, mais c'est pas ton modèle. Enfin, je sais pas, c'est pas Candy là, ton modèle, c'est pas les bisons non plus quoi. Et je pense que les jeux vidéo,
t'es un peu con aussi. Hein.
Ouais, mais ouais, mais tu peux être con avec de la farine, tu peux être con avec.
On n'est pas en plus dans les quartiers difficiles. Hein.
On enchaîne.
Loin de là. Karim Benzema, les GG quitte officiellement le Real Madrid. 14 ans après son arrivée dans la capitale espagnole, à 35 ans, l'attaquant français pourrait poursuivre. Il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il poursuive sa carrière en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Kauter?
On s'en fout, on s'en fout pas. Il va rejoindre ses copains. On s'en fout pas.
Christophe.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout.
Christophe.
Ben non, moi je trouve ça bien. On est intéressé, c'est un modèle pour beaucoup de jeunes. Il a des qualités, défauts comme footballeur. Moi, je suis pas un spécialiste du football, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à lui. Il tient dans l'âge, il continue à aller travailler le matin, il bosse, il a de la volonté, il marque des buts. Voilà, c'est bien qu'il aille en Arabie Saoudite. On vendra les images.
Il rejoint un Messi, il rejoint un Ronaldo, et moi je pense que, moi qui m'intéresse un peu plus au foot, que l'Arabie Saoudite va nous faire une équipe de vieux vétérans, mais de vieux vétérans exceptionnels, et qu'ils peuvent se positionner pour acheter Marseille, et que plus tard ça sera plus PSG, l'OM, mais ça sera Qatar contre Arabie Saoudite, au sein de notre pays.
Ce qui est intéressant, c'est de voir...
Ils embauchent que des vieux quand même. Hein.
Que des vieux bons.
Oui,
que des vieux
bons. Que des vieux très bons.
Non, mais très bien, mais c'est à prix d'or.
C'est-à-dire que. À prix de diamant, là. C'est même plus.
Non, mais
on me dit toujours la loi du marché. Non, aujourd'hui, Messi, Ronaldo, Benzema ne valent pas ce qu'on leur donne. Ils valaient ça du temps de leur splendeur, mais là, ils sont
au bord
de la
retraite. Canailles.
Voilà, c'est les vieilles canailles, effectivement, les vieilles canailles mercenaires, en fait.
C'est comme Dutron.
Excuse-moi, c'est des mercenaires. Moi, j'ai suivi le débat sur Messi. C'est des vieilles canailles mercenaires, tu m'excuseras, mais moi, je suis d'accord avec Courbis quand il dit que Messi, c'est un traîné au PSG pour gagner la Coupe du Monde, parce que c'est pas le même Messi à la Coupe du Monde en Argentine, pour représenter l'Argentine, que la Coupe du Monde. Et donc, en fait, c'est des vieux mercenaires qui peuvent être bons quand ils le souhaitent. Ouais. C'est ça la réalité.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est.
Prendre Pelé,
en prenant
c'est le principe du mercenaire.
L'Arabie Saoudite, en se payant des grands joueurs comme ça. En fait, aussi. Est en train de s'acheter aussi des ambassadeurs pour obtenir quoi ? La Coupe du Monde
bien sûr,
de football.
Tout à fait.
2030.
On n'a pas fini de polémiquer sur l'Arabie Saoudite.
Zidane, il est mort.
Non, non, non.
Zidane est ambassadeur du Qatar et eux sont ambassadeurs de l'Arabie Saoudite.
Alors, Charles, tu as un avis sur le foot là ?
C'est le soft power saoudien.
Le foot est vraiment un truc abominable.
Si je peux me permettre, au-delà, bon là, ils vont à l'étranger. Moi, je trouve. Quand tu vois les budgets des clubs amateurs et quand tu vois les tarifs où sont payés ces gens, en France ou ailleurs, je trouve que c'est complètement indécent et qu'il devrait y avoir, moi si j'étais ministre des sports dans tous les pays, d'ailleurs il devrait y avoir un consensus pour la FIFA, je taxerais de 1%, 2%, 3% les salaires de ces joueurs qui iront directement au club amateur. Quand tu vois qu'on fonctionne dans le club amateur qu'avec des parents bénévoles, qu'avec des éducateurs bénévoles, il faut se faire, les flocages se font par des parrainages, etc. etc. Et ces mecs-là, c'est quand même les modèles de millions de minots, tu vois. Donc c'est une proposition.
Voilà. Pourquoi pas, puisque tu parles de foot tout à l'heure, le ça se passe chez vous. Où est-ce qu'on ira, à ton avis ? On ira à Ajaccio.
Ajaccio,
en Corse, avec le petit Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer au cerveau, qui avait mis un maillot de l'OM. Il était en loge. Le Rotary local l'avait invité à voir le match. Puis il y a des furieux à Ajaccio, en Corse, qui sont allés lui enlever le maillot. Ils ont fait tomber le petit. Donc ça se passe chez vous.
Ils ont tapé son père.
Qu'est-ce qui s'est passé à Ajaccio pour qu'on s'en prenne à un gamin de 8 ans, à son père, simplement parce qu'il avait le maillot de l'OM sur les épaules? Ça se passe chez vous, Ajaccio, tout à l'heure, 11h-20. Dans un instant, locataire, propriétaire, la grande galère, les mesures du gouvernement, est-ce que c'est suffisant pour relancer le marché? On en parle avec Kauter, avec Charles Consigny, puis avec Christophe, notre président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.